La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Suivre le Seigneur n'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile. Bien des exigences de la parole de Dieu nous bousculent, nous dérangent, nous révèlent nos manquements, nos incohérences, nos faiblesses, nos chutes. Et devant ce constat, cette réalité, nous pouvons parfois, et certains le sont, être tentés de penser que la solution réside en plus de foi. Ah, si seulement nous avions plus de foi. Alors tout deviendrait tellement plus facile, tellement plus évident. Nous obéirions à Dieu avec tellement plus de facilité. Nous marcherions à la suite du Christ et de ses préceptes avec tellement plus de cohérence. Nous vivrions une vie chrétienne tellement plus épanouie, faite de tellement plus de victoires. Nous serions en mesure de transporter des montagnes. Qui n'a pas un jour souhaité avoir plus de foi? Une foi qui transporte les montagnes. Une foi qui n'a peur de rien. Une foi qui sait qu'à Dieu tout est possible. Une foi qui va de victoire en victoire. Qui ne désire pas une telle foi? Ce matin, dans notre série sur les paroles difficiles de Jésus, j'aimerais aborder avec vous le passage où Jésus compare notre foi à une graine de moutarde. Le passage où il dit à ses disciples du moment que si leur foi était de cette taille-là, alors ils pourraient dire au mûrier qui devait être non loin de là, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer ». Et cet arbre, dit Jésus, leur obéirait si leur foi était aussi grande qu'une graine de moutarde. Je vous invite à lire notre parole difficile du jour dans l'évangile de Luc au chapitre 17, je lis les versets 5 et 6. Luc chapitre 17, versets 5 et 6. Les apôtres dirent au Seigneur, « Donne-nous plus de foi !» Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Comme à chaque fois devant le texte biblique, nous commençons par nous poser les mêmes questions. Que veut dire Jésus ici? Que veut-il enseigner à ses disciples? Pourquoi aborde-t-il ce sujet à ce moment-là? Que dit-il et que ne dit-il pas? Comme souvent, c'est dans le contexte que nous allons trouver une partie des réponses à ces questions de base. Alors, quel est le contexte de ce passage? Et je vous invite à lire les versets qui précèdent. J'ai ajouté les versets qui nous intéressent à la fin. Je lis donc au début du chapitre 17. Il dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'y ait pas de cause de chute. Mais quel malheur pour celui par qui cela arrive ! Il serait avantageux pour lui qu'on lui attache autour du cou une pierre de moulin et qu'on le jette à la mer s'il doit causer la chute de l'un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il change radicalement, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois par jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je vais changer radicalement », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Donne-nous plus de foi ». Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Quel est le contexte de notre parole ? Le contexte de notre parole, c'est celui de l'exigence du pardon que Jésus met devant ses disciples. Jésus place devant eux la responsabilité du pardon quand il y a repentance. Et cela même si l'offense se répète, et cela même si elle se répète jusqu'à 7 fois par jour. Le chiffre 7, vous le savez, est souvent symbolique de ce qui est parfait, de ce qui est entier, de ce qui est plein dans l'Écriture. Et c'est la raison pour laquelle le chiffre 7 veut certainement dire ici, en réalité, ce n'est pas s'il y a 8 fois, ben, tant pis, hein, c'est une de trop, ça veut dire autant de fois que possible, enfin, autant de fois que nécessaire. S'il y a repentance, dit Jésus, il doit y avoir pardon. C'est l'exigence de Jésus à ses disciples dans ce texte. Si nous avons été offensés, et nous l'avons tous déjà été, nous savons tous que le pardon est tout sauf évident, tout sauf facile, tout sauf allant de soi. Je ne parle pas ici de quelqu'un qui nous a marché sur les pieds, hein, je parle de quelque chose qui nous blesse profondément. Pardonner est difficile. Et ici est ajoutée la difficulté de la répétition. Une fois, ça va, 2 fois, ça passe, mais 3 fois et plus, il ne faudrait quand même pas exagérer. Devant la répétition de l'offense, difficile, voire impossible de tenir le cap du pardon, de ne pas perdre patience, de ne pas finir par envoyer l'autre dans les roses ou sur la lune si vous préférez. Comment peut-il sincèrement me demander pardon et continuer à refaire les mêmes choses ? Nous avons ici clairement une situation qui sort de l'ordinaire, mais qui n'en est pas moins réaliste, et qui est prise par Jésus pour souligner la nécessité du pardon, de toujours pardonner. Parce que pardonner, ce n'est pas une option pour le chrétien, pour le disciple de Jésus. C'est un commandement, c'est une exigence de Jésus. Si ton frère ou ta sœur t'offense, pêche contre toi, et même si c'est ta répétition, tu lui pardonneras aussi souvent qu'il ou elle se repentira. Cette exigence, cette demande quasi impossible à obéir à vues humaines, c'est cette exigence qui suscite la demande des disciples Seigneur. Donne-nous plus de foi. Seigneur, c'est impossible ce que tu demandes. C'est impossible d'y arriver. Seigneur, nous n'arriverons pas à t'obéir. Seigneur, c'est impossible à moins que tu n'augmentes notre foi. Et c'est ainsi que nous avons la demande des disciples qui amènent cette parole difficile de Jésus. Comment comprendre la réponse de Jésus ? Nous comprenons d'où vient la question. Nous comprenons qu'elle jaillit du désarroi des disciples devant la difficulté de ce qui leur est demandé. Mais comment comprendre la réponse de Jésus ? Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. La compréhension traditionnelle de ce texte, c'est que la foi, c'est avant tout une question de quantité ou une question de grandeur. Si j'ai une grande foi, je réaliserai de grandes choses. Si j'ai une petite foi, je réaliserai de petites choses. Voilà, en essence, comment ce texte est souvent compris. Et cette compréhension de la foi amène à une certaine compréhension de la vie chrétienne. À savoir que la vie chrétienne véritable, authentique, celle que Dieu désire pour chacun de nous, est une vie remplie de grandes choses, est une vie remplie de miracles, est une vie remplie de choses impossibles à vue humaine, comme de dire à ce mûrier, déracine-toi et va dans la mer, jette-toi dans la mer. Une vie remplie de prodiges qu'il faut rechercher, parce qu'avec une foi suffisante, tout devient possible. La foi véritable accomplie dans la volonté de Dieu peut accomplir de grandes choses. Voilà la manière traditionnelle de comprendre ce passage et d'autres qui lui sont similaires. Mais je pose la question, est-ce vraiment cela que le Seigneur a voulu dire ici? Notons que Jésus ne dit pas si vous aviez plus de foi. Vous diriez à ce mûrier, déracine-toi. Ou alors, nous notons que Jésus ne dit pas si vous aviez une plus grande foi, vous diriez à ce mûrier. En réalité, il y a une précision textuelle qu'il faut faire ici. Et je suis désolé d'en arriver à des choses un petit peu techniques, mais c'est indispensable pour avancer dans la compréhension de ce texte. Et je vais faire le plus simple possible. Il existe dans les manuscrits du Nouveau Testament deux variantes de ce verset 6 du chapitre 17 de Luc. Deux variantes, en réalité, sur un mot, deux variantes de la conjugaison du verbe avoir au verset 6. Dans certains manuscrits, vous avez le texte que je vous ai lu. Le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, etc. Ça, c'est le texte que nous avons devant nous depuis le commencement. Et puis, dans d'autres manuscrits tout aussi nombreux, je ne les ai pas comptés, hein, je ne sais pas la proportion, mais ils sont nombreux, vous avez cette petite variante qui se lit, le Seigneur répondit, si vous avez... et non pas si vous aviez. Alors la différence, c'est une toute petite lettre en français et en grec aussi d'ailleurs. C'est trois fois rien, c'est vraiment un petit trait de plume. Et c'est une différence qu'on peut expliquer, en tout cas il y a différentes hypothèses possibles. C'est une erreur de copiste, hein, vous savez, on a vite fait de faire une erreur et de se tromper dans la conjugaison. Et plus vraisemblablement, c'est sans doute le désir du copiste d'harmoniser ce verbe avoir avec le verbe principal « vous diriez ». Alors à quoi est-ce que tout cela nous amène? Si le bon texte, la bonne lecture est « si vous aviez », donc le texte du haut, alors Jésus souligne ce que les disciples n'ont pas, à savoir une foi suffisante. Parce que s'ils avaient de la foi comme une graine de moutarde, alors ils diraient à ce mûrier, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Mais si le bon texte, si la bonne lecture est la deuxième, si vous avez, et là la construction en grec sous-entend, et c'est le cas, si vous aviez, et c'est le cas, alors ce qui est sous-entendu ici, c'est que les disciples ont cette foi, comme une graine de moutarde. Si vous avez, et c'est le cas, de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Et nous avons, je ne rentre pas dans les détails, mais d'autres textes dans le Nouveau Testament où nous trouvons exactement cette même construction, où le fait est d'abord supposé réel dans la proposition conditionnelle, et puis traité comme non réel dans la proposition principale. C'est quelque chose qui est assez courant dans le grec. Je referme la parenthèse. Si la bonne lecture est « si vous avez » au présent, sous-entendu donc, et c'est le cas. Alors Jésus est en train de souligner qu'ils ont suffisamment de foi pour agir et faire ce que Jésus leur demande, bien que cela leur semble difficile, voire impossible. Alors résumons. Fort de cette variante possible, je dirais ici parce que ça me semble plus cohérent avec le contexte et plus cohérent avec la demande des disciples, que Jésus dit ici à ses disciples qui lui demandent plus de foi que cela n'est pas nécessaire, parce qu'ils en ont suffisamment, parce qu'ils ont ce qu'il faut. Et la question ici, selon moi, n'est pas celle de peu, de pas assez, de plus ou de beaucoup de foi. La question ici est celle de la mise en œuvre de la foi que j'ai, qui est en moi, de ma foi, quelle qu'elle soit. Car même la plus petite des fois, comme une graine de moutarde, peut dire au mûrier d'aller se jeter dans la mer. S'il devait être question de grandeur dans notre texte, ce serait de la grandeur de Dieu dont il faudrait parler, de la grandeur de la puissance de Dieu, parce que c'est cela qui est important. Ce n'est pas la taille de ma foi, mais c'est la taille de la puissance de Dieu qui va faire la différence. Et c'est un vieux commentaire où j'ai trouvé cette citation de Frédéric Godet qui dit « Forte ou faible, la foi ouvre la porte à l'action de la toute-puissance divine. La seule puissance réelle dans l'univers, celle qui a posé le monde et qui en reste la maîtresse. » Forte ou faible, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la toute-puissance divine. Alors il faut rappeler ici que les Juifs considéraient la graine de moutarde comme la plus petite des graines. Voilà, c'était comme ça. Pour les Juifs, la graine de moutarde, c'était la plus petite. Il n'y avait pas de microscope et c'était pour eux la plus petite des graines. Et puis ils considéraient l'arbre dont il est question dans notre texte, je ne rentre pas dans les détails sur la nature de l'arbre, mais ils considéraient cet arbre comme... et en particulier les racines de cet arbre, comme pouvant rester dans la terre pendant 600 ans. Ce qui fait que le déracinement de cet arbre, solidement ancré dans le sol, par une foi grande comme une graine de moutarde, est en réalité un sacré exploit. Et nous sommes bien évidemment ici en présence d'images. Jésus, comme très souvent, utilise l'analogie. Donc n'allez pas cet après-midi en forêt, à l'instar d'Obélix, commencer à déraciner des arbres au risque de faire pleurer Idéfix. Ça serait grotesque d'imaginer qu'il y a une compréhension littérale à tirer de cette image du mûrier qui est déraciné et jeté dans la terre. L'image de l'arbre dans notre texte, avec son système racinaire profondément ancré dans le sol, représente ce qui est difficile à nos yeux, voire impossible à réaliser, comme le pardon que Jésus demande à ses disciples. Et ailleurs, dans l'Écriture, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 17, nous n'allons pas trouver l'image du mûrier, mais l'image de la montagne associée à la foi comme une graine de moutarde. Une montagne qui peut être déplacée par cette foi, d'où l'expression de la foi qui déplace les montagnes. Si la question ici dans notre texte n'est pas celle de la foi ou de sa taille, c'est en tout cas ma compréhension des choses. Alors, quelle est-elle ? Avant de répondre à cette question, tout petit rappel concernant la nature de la foi, en tout cas concernant quelque chose d'essentiel pour ce qui est de la foi, rappeler que la foi nous est présenté dans l'Écriture comme un don de Dieu. Vous connaissez le texte d'Éphésiens, que je rappelle, c'est par la foi, par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Elle ne vient pas de moi. Elle ne vient pas de vous. C'est Dieu qui nous l'offre. Et donc, je peux raisonnablement penser que la quantité de ma foi ne dépend pas de moi. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas à m'en faire. Parce que même si ma foi est toute petite comme une graine de montagne, elle est suffisante pour accomplir ce que Dieu me demande. Même accomplir ce qui me paraît impossible. Alors revenons à notre question. S'il n'est pas question de foi ou de taille de foi dans ce que Jésus veut dire à ses disciples, de quoi est-il question ? Et la réponse se trouve dans la suite de notre texte. J'ajoute les versets 7 à 10, mais je reprends au verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, « Donne-nous plus de foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. » Qui de vous, s'il a un esclave qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira, quand il rentre des champs, « Viens tout de suite te mettre à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi aussi, tu pourras manger et boire. » Saura-t-il gré à cet esclave d'avoir fait ce qui lui était ordonné ? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des esclaves inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Vous ne le saviez pas encore, mais c'est votre jour de chance. Tout simplement parce que vous avez deux paroles difficiles pour le prix d'une. Du moins difficiles à accepter. Pas facile de comprendre cette parole du verset 10. Nous sommes, dites, nous sommes des esclaves inutiles. Drôle de compréhension de la vie chrétienne. Que nous apprend ce passage ? Que faut-il comprendre de ces paroles de Jésus ? Dans cette petite parabole que Jésus raconte ici, Jésus met en scène un maître et son esclave. Un esclave qui a été occupé dans les champs et qui rentre le soir, qui ne va pas se mettre à table, mais qui va continuer à servir son maître. Le maître en premier. Quand le maître est servi, ensuite, il mangera et il se reposera. Un esclave de qui est attendu un certain nombre de tâches. Un esclave qui, quand il a fait ce qui attend, que quand il a fait ce qui est attendu de lui, n'a fait que ce qui est normal, que ce qui lui incombe, que son devoir, et rien de plus. La norme pour l'esclave, pour le serviteur, bien que c'est le mot esclave qui est dans le texte, c'est de servir, c'est d'obéir, c'est d'agir pour plaire à son maître. Et quand il a agi de la sorte, il n'a rien fait d'autre que ce qui est normal. Et Jésus termine cette petite parabole, l'enseignement de cette petite parabole, en faisant le lien avec ses disciples. Verset 10, il leur dit, de même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous est ordonné, et là, tic, 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 on remonte hein, au verset du pardon, dites, nous sommes des esclaves inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Quand nous avons obéi à Dieu, quand nous avons servi le Seigneur, quand nous avons fait ce qui nous est ordonné, quand nous avons agi par la foi, nous n'avons rien fait de plus, nous n'avons rien fait d'autre que ce qui est normal si nous sommes disciples du Seigneur. Nous n'avons en tout cas rien fait d'extraordinaire. Rien qui mérite une faveur particulière de Dieu. Rien d'autre, je le répète à la suite du texte, que notre part, que ce qui nous avait été ordonné. Alors comment nouer la gerbe? Comment lier ce que nous venons de dire avec notre texte du départ? Et ma compréhension est la suivante. Les disciples, devant la grande difficulté que représente le pardon que Jésus leur demande, demandent au Seigneur d'augmenter leur foi. Et Jésus leur répond que leur foi est suffisante. Qu'en réalité, la question n'est pas la grandeur de la foi. La leur, même si elle est de la taille d'une graine de moutarde, est suffisante pour faire même ce qui paraît impossible. Pour pardonner aussi souvent que la personne se repent. En fait, la question ici n'est pas celle de la foi, mais celle de l'obéissance. Celle du service de leur maître, du Seigneur. Même si ces exigences sont grandes, leur devoir, leur responsabilité est d'obéir, est de faire leur part, est de pardonner aussi souvent que nécessaire. Et quand ils ont agi de la sorte, ils n'ont fait rien d'autre que leur devoir. Et ils sont, dit Jésus, des esclaves inutiles. Alors il faut quand même donner deux mots d'explication sur cette expression. Et en réalité, la traduction de ce mot ici, rendu par inutile dans la Nouvelle Bible Seconde, est bien incertaine. Nous sommes, comme ça arrive parfois, devant un mot dont on n'est pas tout à fait sûr du sens. Et c'est la raison pour laquelle, et si vous ouvrez plusieurs Bibles, vous verrez que vous allez trouver différentes traductions. C'est parfois rendu comme nous sommes de simples esclaves ou de simples serviteurs, ou nous sommes des esclaves ordinaires ou des serviteurs ordinaires. Nous sommes des esclaves sans mérite, des esclaves quelconques, des esclaves non indispensables, etc. etc. Alors, je n'ai pas les compétences pour trancher ce matin. Et je pense que si ça n'a pas été fait depuis 2000 ans, ça risque de ne pas l'être tout de suite dans l'immédiat. Mais quelle que soit la traduction adoptée, elle doit être dans la lignée, dans la ligne de la compréhension du texte, qui est que les esclaves, les serviteurs, quand ils ont fait leur devoir, quand ils ont obéi au maître, ils n'ont rien fait d'autre que ce qui est normal. Rien de plus que leur devoir. Et quel est le devoir auquel Jésus fait allusion ici? C'est celui du pardon. Mes amis, ne croyez jamais quelqu'un qui vous dit que pardonner c'est facile. Le vrai pardon, quand il y a eu une véritable offense, le vrai pardon, celui qui efface l'offense, c'est quelque chose qui coûte. C'est quelque chose de difficile. C'est un renoncement que je dois faire. Et selon l'importance de l'offense, c'est parfois même à vue humaine impossible. Et quelle est la solution pour y arriver? Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas plus de foi. Ce n'est pas une plus grande foi, mais un acte d'obéissance. Un acte que j'accomplis parce que le Seigneur me le demande. Un acte que j'accomplis parce que j'ai confiance en Dieu qui, s'il me le demande de le faire, me le demande certainement pour mon bien. Quand est-ce que j'ai exercé le pardon pour la dernière fois? Quand est-ce que vous avez pardonné quelqu'un pour la dernière fois? Quand est-ce que vous avez demandé pardon à quelqu'un, à un frère, à une sœur, pour la dernière fois? Enfin, la dernière fois. Et on pourrait étendre ça à toutes nos relations, à votre conjoint, à vos enfants, à vos parents. Les relations authentiques, les relations saines, et a fortiori les relations fraternelles, sont construites sur la repentance et sur le pardon. Et s'il n'y a pas de repentance et de pardon dans une relation, et dans les relations fraternelles aussi, par exemple, mes amis, c'est qu'il y a un problème dans cette relation-là. En fait, il y a même un double problème, et je reste sur la question de la relation fraternelle. Un double problème, celui des relations fraternelles qui ne sont pas ce qu'elles devraient être, parce que vous pouvez lire tout le Nouveau Testament et vous allez en trouver des textes qui invitent au pardon réciproque, etc. Et puis celui des vies de disciples qui ne sont pas ce qu'elles devraient être, qui ne font pas ce que le Seigneur demande, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Avons-nous besoin de plus de foi pour accomplir la volonté de Dieu? Mes amis, je ne le pense pas. Je ne le pense pas, mais je pense que nous avons besoin de plus d'obéissance. Je pense que nous avons besoin de plus de soumission à Dieu. Je pense que nous avons besoin de plus d'amour pour Dieu, oui, mais pas plus de foi. Que faire si je constate ce matin que je fais fausse route dans ma vie spirituelle? Mes amis, c'est en réalité plutôt simple. Il suffit de venir ou de revenir au Seigneur. Il suffit de se repentir. Il suffit de recevoir son pardon. Et il suffit de commencer à obéir là où je n'ai pas été obéissant. Et il nous faut ici nous souvenir que le Seigneur nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour lui plaire et pour lui obéir. Nous avons tout en lui, dit l'apôtre Paul, et nous avons en lui la grâce qui nous relève toujours quand nous chutons. Et l'apôtre Pierre, au début de sa deuxième lettre, nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout. Je n'ai pas besoin de demander plus de foi. J'ai tout reçu. Il faut maintenant obéir. La solution, mes amis, à nos problèmes spirituels et à nos manquements dans la vie spirituelle, ce n'est pas plus de foi. Mais c'est plus d'obéissance. C'est plus de foi mise en pratique. C'est plus de dépendance à Dieu et à sa parole. Voilà la conclusion à laquelle m'a amené l'étude de ce texte. Que le Seigneur nous y aide et qu'il nous fasse à chacun la grâce de marcher de progrès en progrès pour la gloire de son nom. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.